on est bien sur Fréquence Paris Pluriel, c'est les oreilles loin du front. On va donc tout de suite rentrer dans le dossier de cette émission. Donc, comme je vous le disais, c'est la diffusion de la suite de cet après-midi qui s'est tenue le 11 septembre dernier à Montreuil, un rassemblement contre le racisme d'État qui s'intitulait « Les Roms et qui d'autres ?». Alors l'idée, la formule, c'était une série de tables rondes notamment, enfin c'est ça qu'on vous diffuse en tout cas, où ont été invités à intervenir des anthropologues, des sociologues, beaucoup d'universitaires en fait, ou d'intellectuels. Et donc la forme que ça prend, c'est une série de prises de position à travers les thèmes des tables rondes. Prise de position ou d'explication en fonction de la discipline des orateurs ou de leur domaine de compétences militantes. En tout cas, donc on vous diffuse tout ça dans l'ordre chronologique. La semaine dernière, on vous a passé des extraits de la première table ronde qui seront bientôt mis en ligne sur notre site. Et puis aujourd'hui, donc, c'est la deuxième table ronde qui s'intitulait « L'identité nationale ou le racisme d'État ». Donc, on va entendre plusieurs interventions. Encore une fois, ce sont des extraits. Et donc, je voulais aussi rappeler que les intervenants n'avaient chacun que 10 minutes pour intervenir, ce qui, effectivement, limite un petit peu le développement. Donc, en tout cas, on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, avec Patrick Henriot. Patrick Henriot, qui est magistrat et membre du syndicat de la magistrature.
Ce que le syndicat de la magistrature peut avoir à dire aujourd'hui, c'est d'apporter un témoignage, d'apporter son regard sur la façon, sans doute, dont le droit des étrangers en général, incluant évidemment le droit des Roms, mais ce qu'on appelle le droit des étrangers, inclut d'ores et déjà, finalement, c'est déjà témoigné de ce que le droit des étrangers contient déjà la logique d'exclusion qui est à l'œuvre dans les déclarations politiques, etc. C'est-à-dire que ces déclarations politiques ne viennent que confirmer une tendance lourde qui est déjà à l'œuvre dans le droit des étrangers, à la fois dans ce qu'on appelle le droit substantiel, c'est-à-dire le contenu des textes qui régissent la vie quotidienne des étrangers en France, et puis d'abord, avant leur vie quotidienne, leur entrée sur le territoire national, puis ensuite la vie en France. Et puis aussi, cette logique d'exclusion ou de rejet, elle est à l'œuvre aussi, et ça intéresse encore plus directement le juge, dans les procédures judiciaires dont l'objet est précisément d'organiser le rejet, cette fois-ci physique, des étrangers, c'est-à-dire d'organiser concrètement les reconduites à la frontière, les expulsions, les refoulements. Alors, sur d'abord ce premier aspect, au fond, de quoi peut-on témoigner en tant que juge sur ce qu'est le droit des étrangers ? Je crois que la première chose qu'on peut dire, ce qui frappe avant tout, c'est que finalement, depuis de nombreuses années, mais depuis une origine qu'on peut dater à peu près de 1974, qui correspond à l'année où a été décrétée la fin de l'immigration de travail. Depuis 1974, donc, le droit des étrangers se construit à travers des textes dont la constante est de consacrer un raidissement de plus en plus fort des politiques migratoires. Et donc, finalement, un processus quasiment ininterrompu de restriction des droits au séjour et ensuite des droits fondamentaux des étrangers lorsqu'ils sont admis au séjour. Alors, cette évolution du droit des étrangers, elle est évidemment la traduction d'un objectif politique qui est un objectif totalement réaliste mais qui continue à être poursuivi avec constance. C'est ce qu'on appelle l'objectif de la maîtrise des flux migratoires. Et je voudrais rappeler que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 novembre 2003, c'est la seule référence juridique que je ferai, rassurez-vous. Mais le Conseil constitutionnel, dans cette décision, a dit que la maîtrise des flux migratoires était un objectif d'intérêt général. Et donc on voit bien comment, dans cette décision fondamentale, puisqu'elle émane de la Cour constitutionnelle, enfin du Conseil constitutionnel, qui n'est pas encore une Cour, on voit ainsi consacrer l'encadrement juridique et les limitations à la liberté d'aller et venir, qui sont consacrés juridiquement comme ces limitations comme étant des objectifs d'intérêt général. Alors ça se traduit plus concrètement dans le détail des textes, sur lesquels évidemment je ne reviendrai pas, mais ça se traduit par une tendance lourde du droit des étrangers qui fait que chaque élément du statut personnel de l'étranger le place en réalité dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'administration. Je crois que c'est ça la constante. C'est-à-dire que pour l'exercice de l'ensemble des droits, qui sont le droit au l'accès au territoire, le droit au séjour, l'accès au travail, l'accès à la santé, aux prestations sociales, au logement, etc., l'exercice de chacun de ces droits est conditionné par toute une série de conditions ou de restrictions ou de mesures administratives qui viennent finalement placer l'étranger dans une situation de dépendance à l'égard de l'administration. Alors, les conséquences, c'est d'abord évidemment pour les étrangers eux-mêmes une insécurité permanente, mais c'est aussi plus fondamentalement et plus globalement une soumission à la logique administrative et à des objectifs qui sont en contradiction de plus en plus flagrante avec le respect des droits fondamentaux et le respect de la dignité des individus. Puisque effectivement, cette logique administrative, elle ne résonne pas en termes de droits et de libertés, en termes de droits fondamentaux, elle fonctionne en termes de logique administrative, précisément donc de logique de restriction des droits et de refoulement, de rejet des étrangers. Et la conséquence ultime, c'en est évidemment un traitement de masse de ces populations, c'est-à-dire non individualisées, et on le voit également dans les procédures judiciaires, toute la pression qu'exerce l'administration, le pouvoir exécutif sur les juges, c'est pour que précisément on cesse de faire ce qui est le travail du juge, le travail d'individualisation de chaque dossier. Alors, du point de vue du juriste, je crois qu'il n'est pas scandaleux qu'il y ait un droit des étrangers. On peut difficilement faire autrement, puisque c'est une catégorie juridique. Mais je crois que ce qui devient scandaleux, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est quand ce droit des étrangers se réduit de plus en plus à ce qu'on appelle la police des étrangers. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la police des étrangers, c'est une forme de police administrative qui est applicable à une catégorie particulière de personnes avec des objectifs spécifiques de limitation des droits. Et alors pour le juge, lorsqu'il est amené à mettre en œuvre ce droit des étrangers, ce droit de restriction, ce droit de limitation, ce droit de rejet, ça se résume finalement à une situation un peu difficile, un peu délicate, puisque le juge, en fait, il est au centre d'une contradiction ou d'une confrontation, en tout cas permanente, entre deux systèmes de valeurs. Le juge, il est là pour faire respecter l'état de droit. L'état de droit, c'est un système qui soumet l'État et ses administrations au respect de principes et de règles préétablies. Et ces règles sont évidemment autant de garanties des respects des libertés et des droits fondamentaux. Mais le juge, il est prêt aussi, en sandwich, si je peux dire, entre cet état de droit et ce qui est en train d'émerger de plus en plus comme étant l'état de police. Alors, cette expression d'état de police, je ne l'invente pas, mais je l'ai trouvée dans la littérature juridique, et je trouve qu'elle prend une actualité dramatique. C'est un juriste qui s'appelait Carré de Malberg, qui avait défini ce que c'est que l'état de police par opposition à l'état de droit. Et il disait, l'état de police est celui dans lequel l'autorité administrative peut, d'une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l'initiative en vue de faire face aux circonstances et d'atteindre à chaque moment les fins qu'elle se propose. Et donc on voit bien que le juge, il est au cœur de cette contradiction, de cette tension entre le nécessaire respect d'un état de droit qui implique l'application individualisée de règles qui ont pour objet de respecter les libertés individuelles et les droits fondamentaux, et puis cet état de police dont je ne dis pas qu'il est réalisé, je ne vais pas jusqu'à prétendre que nous vivons dans un état de police, encore que certains, par leur déclaration, laissent entendre qu'ils aimeraient bien que, au fond, l'institution judiciaire soit au service du pouvoir exécutif qui incarne l'autorité administrative. Mais admettons que nous n'y sommes pas encore, mais le fait est que la logique qui est à l'œuvre dans le droit des étrangers, c'est bien celle d'un état de police, c'est-à-dire que les objectifs de l'administration, et on comprend vite que les objectifs de l'administration sont ces fameux quotas, les objectifs chiffrés d'expulsion, de rejet, et bien ces objectifs de l'administration sont érigés, comme le disait le Conseil constitutionnel, en objectif prioritaire, en priorité nationale, en objectif d'intérêt général. Et par conséquent, le juge va se trouver pris au centre de cette contradiction entre l'état de droit et l'état de police. Alors, il est pris dans cette contradiction parce qu'effectivement, il est chargé d'appliquer une réglementation qui est de plus en plus contraignante, qui est de plus en plus restrictive, mais il est surtout dans cette contradiction parce qu'il exerce sa fonction, il exerce sa mission dans un environnement, dans un climat de pression tout à fait considérable qui s'exerce sur lui, du haut en bas d'ailleurs de la hiérarchie administrative, puisque à partir du moment où le ministre a fixé un objectif de quota d'expulsion, eh bien, tout l'appareil administratif et policier, mais aussi l'appareil judiciaire est sommé, d'une certaine façon, de faire en sorte que cet objectif puisse se réaliser. Et donc, le juge subit cette pression de l'administration, et en même temps, il est, au terme de la Constitution, cette fois-ci, voyons-en l'aspect positif, article 66 de la Constitution, le juge est le gardien de la liberté individuelle. Et donc, le juge, comme gardien de la liberté individuelle, il doit faire prévaloir, effectivement, des règles fondamentales qui viennent se mettre en travers de l'objectif de l'administration. Chaque fois que le juge va appliquer, en individualisant l'examen d'une situation, va imposer le respect d'un droit, d'une liberté fondamentale, à travers une décision qui va se référer à des textes, notamment souvent des textes de valeur supérieure, supranationale, eh bien, il se mettra en travers du chemin du ministre, de l'administration, qui ont décidé qu'il fallait que tant d'étrangers soient expulsés chaque année. Alors, on arrive à cette situation qui est, me semble-t-il, assez grave, où ce travail du juge, qui devrait pouvoir s'accomplir dans une certaine sérénité, eh bien, il s'accomplit non seulement sous la pression de l'administration, mais il s'accomplit aussi sous la pression du politique, qui regarde le travail du juge et qui commente le travail du juge. Il faut se souvenir que, lors de l'épisode dont parlait Claire Rodier tout à l'heure, des expulsions de la jungle de Calais, ou par exemple l'épisode de l'arrestation des réfugiés kurdes sur une plage de Corse, le ministre de l'immigration s'est plaint assez ouvertement de ce qu'il a appelé le laxisme des juges, un peu comme en matière pénale, qui ont tendance, d'après lui, à relâcher un peu trop facilement les étrangers que l'administration a eu tant de mal à incarcérer. Et ce discours sur le laxisme des juges, dans la logique politique dans laquelle on est, il alimente maintenant aussi tout un travail d'évolution des textes qui vont être la traduction de cette dénonciation du juge, puisque le projet de loi Besson, qui va être examiné dans quelques semaines à l'Assemblée nationale, contient, entre autres mesures, toute une série de dispositions qui ont pour objet principal de faire en sorte soit que les étrangers qui sont en instance d'expulsion ne puissent même plus passer devant le juge qui est censé être le gardien de leur liberté individuelle, soit lorsqu'ils doivent néanmoins passer devant le juge, faire en sorte que les juges ne puissent plus exercer à plein leur pouvoir de contrôle, c'est-à-dire qu'on limite par des dispositions particulières très techniques le pouvoir du juge de contrôler l'action de l'administration. Voilà donc les quelques mots que je voulais prononcer en guise de témoignage de ce qui me paraît être le regard du juge sur les politiques qui sont mises à l'œuvre dans cet objectif absolument irréaliste, mais politiquement très payant, évidemment, de la maîtrise des flux migratoires.
Amen.
Voilà, vous êtes bien toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Les Oreilles Loin du Front et on poursuit donc l'écoute des extraits de cette table ronde intitulée L'identité nationale ou le racisme d'État et qui s'était tenue lors du rassemblement contre le racisme d'État, les Roms et qui d'autres, donc une série de prises de parole autour de thématiques lors de table ronde. C'était à Montreuil samedi 11 septembre dernier et c'était organisé par Cécile Canu, qui est professeure de sociolinguistique à l'Université Paris-Descartes, Cécile Kovac-Chazy, qui est maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Limoges, et Thomas Lacoste, qui est cinéaste, éditeur et membre de la bande passante. Donc on va tout de suite entendre Christophe Mileschi. Christophe Mileschi qui est enseignant-chercheur en littérature italienne et écrivain.
Je suis un Français d'origine étrangère, d'origine non contrôlée et d'origine incontrôlable. Je n'appartiens à aucun parti, ni syndicat, ni église, et je n'appartiens pas non plus, en tout cas je refuse de définir mon identité de cette manière, à la patrie, à la nation, où il se trouve que je réside et respire. Je voudrais, depuis le non-lieu véritable de l'existence, dire ceci. Nous savons bien, nous savons très bien ce que signifie, ce que trahissent les propos et la politique de ce gouvernement, son chef suprême en tête. Nous savons bien sur quel levier, sur quelle pulsion ça joue et où ça mène. Nous savons ce que coûte cette construction du consensus sur la peau d'un autre, qu'on rejette hors de soi, qu'on refuse d'accueillir en soi, chez soi, à qui on dénie des droits, qu'on dit par ailleurs vouloir défendre pour les nationaux. Nous connaissons ce mécanisme ancien et toujours réinventé qui fabrique l'enthousiasme par la haine, l'identité par l'invention d'une altérité sans partage. Dans un monde où rien n'est sûr sinon que nous mourrons, c'est le propre des pleutres et des démagogues d'ainsi feindre la certitude à bon compte, la certitude qu'il y a un dehors et un dedans, et que le chef veille à la frontière et nous défend des invasions barbares. Mais le chef est ici l'envahisseur et le véritable barbare. Italo Calvino, qui n'est pas un extrémiste politique, a dit qu'il fallait cependant être des extrémistes de la pensée, que c'était le rôle et la fonction de ce qu'on appelle les intellectuels que de pousser les idées à leurs ultimes conséquences pour savoir où ça mène. Bataille a dit, je crois, quelque chose d'analogue. Être un intellectuel, quelqu'un qui pense, tout simplement, dans le cas qui nous réunit aujourd'hui, être un extrémiste de la pensée, c'est tout bonnement penser à ce à quoi mène cette politique et le discours qui la soutient. Cela a déjà eu lieu, cela peut encore avoir lieu, a écrit Primo Levi. On dit pas d'amalgame, ce serait même contre-productif, selon certains, c'est excessif de comparer Sarkozy à Pétain. Bien sûr, Sarkozy n'est pas Pétain. Bien sûr, les mesures contre les Roms ne sont pas les lois contre les Juifs. Bien sûr, mais bien sûr aussi, s'il faut attendre que se reproduise exactement la scansion de mots et de faits qui ont conduit à l'horreur exterminatrice avant de nous émouvoir, alors restons chez nous. À chaque fois, l'horreur invente de nouveaux chemins, des chemins inédits. J'affirme que ce gouvernement est en train d'inventer les chemins inédits qui mènent exactement à l'horreur de demain. C'est-à-dire à l'horreur où sont déjà jetés des gens traités comme des catégories, comme des entités, comme des espèces. L'horreur de demain, oui, nous ne sommes pas encore dans l'état de police. Nous, non. Mais eux, certains, eux, oui, sont dans l'état de police. L'horreur de demain, c'est l'horreur d'aujourd'hui lorsqu'elle sera définitivement institutionnalisée et généralisée. Cela ne doit pas avoir lieu. Nous sommes ici parce que nous ne voulons pas que cela ait lieu. Dans les années qui viennent, c'est ma crainte depuis longtemps. Il faudra le dire et le redire encore, le dire et le redire plus fort. Surtout, il faudra, c'est mon espoir, relier solidement le sort qui est fait aux sans-papiers, aux Roms, à tous les exclus, relier ce sort à la misère, à la précarité, à l'iniquité du destin où l'on contraint tant de gens avec papier et autres vrais Français. Il nous appartient de dire que nous savons que les problèmes que le pouvoir agite sous le nez du bon peuple ne sont que les écrans de fumée derrière lesquels il s'assure sans cesse la possibilité de poursuivre ses manigances infectes. Il nous appartient de dire que les véritables ennemis de la France, si par France on entend une certaine république idéale fondée sur des valeurs de justice, d'égalité sociale, de fraternité, de liberté, que les véritables intrus sont aujourd'hui précisément en position de diriger ce pays. Notre combat est un combat pour la justice et contre l'autoritarisme financier. Là où un président et sa clique œuvrent à détruire le lien social, à atomiser la communauté qu'ils administrent en clan, à exaspérer les particularismes au nom d'un fantasme létal d'identité nationale, à diviser pour régner, il nous faut travailler à ce qui unit, à ce qui renoue, à ce qui fédère. S'il est un autre à dénoncer, à fustiger et à combattre, s'il est un ennemi commun, c'est ce président imposteur, ce républicain de façade, ce hiérarque et sa cour. Sarkozy, go home! J'affirme que ce gouvernement est indigne de sa fonction et qu'il doit se démettre au nom de la France. Je lance, pour la seconde fois depuis un an et demi, sur un thème différent, à M. Nicolas Sarkozy, un défi en duel verbal. Qu'il ose le relever, qu'il ose affronter un simple citoyen de la République française sur la question des Roms, des sans-papiers ou toute autre question qu'il choisira. Qu'il ose mettre sa rhétorique de politicien de métier à l'épreuve du réel. Si ce qu'on nomme démocratie permet ce qui se passe en France depuis 3 ans, depuis 8 ans, depuis 15 ans, alors c'est qu'il est temps, largement temps, de changer cette démocratie.
Et voilà, c'est bien les oreilles loin du front. Et on va tout de suite poursuivre notre écoute de cette table ronde, l'identité nationale ou le racisme d'État, avec Jacques Rancière. Jacques Rancière qui est philosophe et vous allez l'entendre, qui va tenter vraiment de répondre à la question de la table ronde.
Ce que je voudrais simplement, disons aujourd'hui, c'est un petit peu commenter donc ce thème qui a été mis comme thème de notre journée, le thème d'un racisme d'État. Bon, ce qui me paraît important, parce qu'il me paraît important de rompre avec une certaine interprétation de l'attitude du gouvernement qu'on a entendue assez largement, à savoir que, bien sûr, quand ça va mal, on exploite les thèmes racistes à des fins électoralistes. Bon, ce genre d'argument suppose quoi ? Toujours, au fond, une espèce d'idée du racisme comme une espèce de passion populaire toujours latente, quoi, que de temps en temps, les gouvernements, disons, viendraient susciter, évidemment en manquant à leur mission exemplaire, disons, de représentant de la rationalité. C'est toujours donc, au fond, on suppose le racisme comme passion populaire, passion des attardés, dont on nous explique que, bien sûr, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à se mettre au diapason du nouveau monde qui est mobile, cosmopolite, etc., etc. Donc, et dis donc, ça veut dire que même lorsqu'on critique le gouvernement, au fond, c'est toujours en même temps pour, disons, donner à l'État supposé idéal, donc une espèce de privilège de rationalité, privilège de contrôle de l'irrationalité populaire. Le problème, c'est que cet argument, ce genre d'argument, en fait, disons, utilise finalement le même dispositif conceptuel au nom duquel les mesures racistes d'État sont prises. Parce que bon, si on regarde ce qui se passe depuis une vingtaine d'années, disons en gros depuis les lois, notamment les lois Pasqua-Mahamay-Ennery de 93, c'est qu'on a toujours à peu près la même logique, à savoir qu'on fait des lois sur l'immigration, contre les clandestins, on prend des mesures contre les clandestins. Pourquoi ? Parce que bien sûr, l'immigration, ça crée des problèmes. Créant des problèmes, ça peut créer du racisme, et que donc il faut bien sûr prendre les bonnes mesures, des bonnes mesures de, disons, contre les immigrés clandestins étrangers, pour empêcher, disons, que se déchaînent les passions populaires du racisme. Or, bon, ça, je crois qu'il y a ce jeu qui se joue toujours, où, d'une certaine façon, on met d'un côté les passions racistes populaires et de l'autre la bonne, disons, la bonne légitimité universaliste de l'État rationnel, quoi. Ça veut dire que, finalement, à chaque fois, on donne, en réalité, aux politiques racistes d'État un brevet d'antiracisme, un brevet de lutte contre le racisme, disons, supposé latent dans les bas-fonds de la population. Je crois qu'il faut vraiment commencer à interpréter les choses à l'envers, à penser effectivement cette solidarité entre la rationalité, entre la rationalité étatique qui commande les mesures auxquelles nous assistons et cette espèce d'autre commode que l'État se donne, à savoir la passion populaire. Ça n'est pas le gouvernement qui agit sous la pression ou en réaction au racisme populaire, au mouvement dit populisme. C'est la raison d'État qui entretient cet autre, quitte à lui confier la gestion imaginaire de sa législation réelle. Le racisme d'aujourd'hui, j'avais proposé il y a déjà un certain temps de l'appeler un racisme froid ou un racisme à froid, à savoir une construction intellectuelle, une création de l'État. Une création de l'État parce que, d'une part, je dirais, c'est l'essence de l'État en général, que d'être, disons, un instrument policier, j'entends par là, que de fixer les identités et de fixer l'identité, de contrôler les places, les identités et les déplacements. C'est la fonction en général de l'État, je dirais, c'est son essence, de lutter contre l'excédent, ça veut dire aussi contre cet excès sur la logique identitaire que constitue l'activité des sujets politiques. Et bon, mais sûr, ce travail est rendu plus insistant aujourd'hui par un ordre économique mondial où, finalement, qui est celui un peu, de la conjonction entre deux circulations. Nos États sont de moins en moins capables de contrecarrer les effets destructeurs de la libre circulation des capitaux pour les communautés dont ils ont la charge, de moins en moins capables et surtout de moins en moins désireux de le faire. Donc, ils se concentrent sur ce qui est en leur pouvoir, à savoir, disons, ils se donnent pour objet à contrôler, pour objet à surveiller la libre circulation des personnes. Ils se donnent un objectif qu'ils nomment sécurité. Et par sécurité, il faut d'abord, comprendre création, gestion, entretien d'un sentiment d'insécurité. En conséquence, nous avons, disons, de plus en plus, depuis 20 ans, un usage de la loi qui est essentiellement deux choses, un usage idéologique, il faut donner figure à celui qui menace, et un usage pratique, à savoir qu'il faut créer finalement justement des identités d'autres, créer des identités de clandestins, créer des identités flottantes de gens qui sont justement là mais pas là, là mais susceptibles, d'être rejetés, et ainsi de suite. Bon, ça a commencé à la catégorie même d'immigrés. La catégorie d'immigrés, ça, faire des lois sur l'immigration, c'était d'abord créer cette catégorie d'immigrés dans laquelle entraient, un certain nombre de gens qui étaient de fait des Français selon les lois de la République française. Ça a continué avec la lutte contre l'immigration dite clandestine, parce que le concept même de clandestin, justement, a été aussi, d'une certaine façon, et sa mise en œuvre sous forme de loi, qu'est-ce que ça a fait? On le sait, ça a créé effectivement des clandestins. Autrement dit, les lois Pasqua-Méhaigneré, celles qui ont suivi, ont eu pour effet, je dirais, de transformer en clandestins des gens dont la situation, dont le statut était légal. Bon, on voit maintenant que fonctionnait de même la notion de Français d'origine étrangère, donc de Français pas complètement français, et également donc susceptible de perdre cette identité. Aujourd'hui, on a ces mesures anti-Roms qui, justement, créent une catégorie nouvelle au sein de l'Europe ou de la libre circulation. Il y a des Européens qui ne sont pas vraiment des Européens. Donc, je crois que c'est véritablement, au fond, proprement, effectivement, cette logique d'État qui, éventuellement, est prête à utiliser, je dirais, toutes les contradictions dans son argumentation pour créer, justement, ces identités douteuses, ces identités en suspens. Si on prend, par exemple, un certain nombre de lois et de mesures qui ont été prises récemment, je dirais qu'on a des lois de discrimination, comme la fameuse loi sur la burqa, qui est censé être fondée sur l'université, sur l'universalité citoyenne. D'où, on a l'argument d'égalité des citoyens devant la loi, de tous les Français devant la loi, qui du même coup crée une catégorie de Français et de Françaises qui sont déviants par rapport à cette identité française. Mais de l'autre, nous avons donc ces lois nouvelles qui instaurent des discriminations, en disant non, tous les Français ne sont pas exactement également identitairement français, puisque, il y a des Français qui sont d'origine étrangère. Donc d'un côté, tous les Français sont pareils et les pas pareils, doivent être sanctionnés. De l'autre côté, tous les Français ne sont pas pareils. Je crois que donc, il faut bien voir que le racisme d'aujourd'hui n'est pas une passion populaire, c'est une logique d'État. Mais aussi une logique, c'est une construction intellectuelle, mais aussi, je dirais, une construction intellectuelle qui, précisément, a cette originalité d'avoir été soutenue par toute une partie de la classe intellectuelle. Ce qui est quand même remarquable, je crois, dans la situation actuelle, c'est que le nouveau racisme d'État a pris ses arguments, non pas du tout de l'extrême droite raciste, non pas du tout, des groupes traditionalistes. Son idéologie et ses légitimations ont été, créées par toute une partie de ce qu'on appelle l'élite intellectuelle, de l'intelligentsia dite de gauche ou dite républicaine. Autrement dit, ce racisme actuel, notamment le racisme anti-islamique, est proprement, quelque chose qui a été créé, non plus, avec les vieux arguments de l'extrême droite, mais au nom de la laïcité, l'universalité républicaine, l'égalité devant la loi, la lutte contre le communautarisme, etc., etc. Autrement dit, on a une discrimination qui n'est plus fondée sur des arguments sur la supériorité des races, mais des arguments qui sont censés être fondés sur l'égalité des hommes, l'égalité bien sûr des hommes et des femmes, l'égalité de tous les citoyens. Or, je dirais que il y a des passions comme ça égalitaires qui sont un peu suspectes, un peu trop nouvelles, et quelquefois un peu trop contradictoires avec les discours, que les mêmes intellectuels peuvent tenir sur les ravages de l'égalité ou les ravages du féminisme. Donc, ce qui fait que, ces grands arguments au nom de l'universalité, essentiellement pour fonction, de créer justement ces amalgames dont on parlait, dont vit la logique d'État, amalgame de l'immigré, l'islamiste, l'arriéré, le machiste et le terrorisme. Donc création donc intellectuelle, création on peut dire d'une élite intellectuelle au service de l'État. C'est-à-dire au service non pas d'une logique d'universalité, mais au service d'un pouvoir discrétionnaire de décider qui appartient ou qui n'appartient pas à la classe de ceux qui ont le droit d'être ici. Un pouvoir de conférer et de supprimer des identités. Et je dirais, ce pouvoir a comme corréla aussi le pouvoir d'obliger les individus à être à tout moment identifiables, à se tenir dans un espace de visibilité intégrale au regard de l'État. Je fais allusion, bien sûr, à la façon tout à fait étonnante dont on a résolu, disons, ce casse-tête juridique de la loi sur la burqa. Bon, c'était pas très sympathique de faire une loi pour quelques centaines de personnes et sur des motifs ouvertement de discrimination à l'égard d'une religion. On a trouvé la solution. La solution, à savoir qu'on a dit que ce n'était qu'un cas particulier d'une mesure générale qui visait les gens qui se masquaient la figure dans l'espace public. Ce qui est une façon absolument extraordinaire, effectivement, de mettre en même temps, la femme porteuse de la burqa et symbole donc de toute l'arriération musulmane, et le militant, c'est-à-dire le terroriste, l'activiste terroriste, qui cache ses sales actions, derrière son masque ou son foulard. Bon, cette histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, du début de la fameuse affaire Redeker il y a quelques années. C'est donc l'affaire du professeur français supposément victime d'une fatwa islamique. Or, l'affaire Redeker avait commencé par un article du même Redeker dans le Figaro, dont l'argument était, une protestation contre l'interdiction du string à Paris-Plage. Et du string à Paris-Plage, donc de l'impossibilité d'être nu, en quelque sorte, sur l'espace public de la plage, de là sortait toute une diatribe extraordinaire contre le fanatisme musulman, le fait que c'était une religion de haine, de violence, et etc. Et ce qui fait que, les arguments intellectuels sur la laïcité, l'universalité, se ramènent à cette espèce d'obligation de nudité dans l'espace public, qu'il soit celui du pavé ou de la plage. Donc, il me semble que beaucoup d'énergie a été dépensée contre une certaine figure du racisme, supposé racisme d'en bas. Cette énergie, malheureusement, il faut bien constater qu'elle a été en partie récupérée pour construire la légitimité d'un nouveau racisme, qui est un racisme d'État et un racisme intellectuel, et on peut dire intellectuel de gauche. Et je crois qu'il serait important, de ce point de vue-là, de réorienter aujourd'hui nos pensées et nos analyses, et du même coup, peut-être, nos luttes à l'égard du racisme. Merci.
Et voilà, c'est toujours les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel. Et on va donc entendre un dernier extrait des interventions qui se sont tenues à Montreuil le samedi 11 septembre dernier, qui était donc une après-midi rassemblement contre le racisme d'État qui s'intitulait « Les Roms et qui d'autres ?». Et donc c'était la table ronde intitulée « L'identité nationale ou le racisme d'État ?». Et on va entendre tout de suite l'intervention de Sophie Vanisch qui est historienne.
Donc, je suis historienne de la période révolutionnaire française et du coup je pense qu'un certain nombre de choses que j'avais prévu de dire entrent en résonance avec ce qui a été dit tout à l'heure et en particulier sur une certaine conception de la nation attachée à la figure de Vercingétorix. Cette figure de la nation attachée à Vercingétorix, c'est une figure de la nation qui naît en fait avec la Troisième République et qui n'est pas celle de la période révolutionnaire française et qui pose donc la question d'une analyse historique au sens strict de ce qu'on appelle république et de la manière dont aujourd'hui, dans ce pays, on nous propose, plutôt que de réfléchir à notre histoire nationale, de s'identifier à ce qu'on appelle donc une identité nationale. Or, cette histoire nationale, je viens d'évoquer la Troisième République, c'est bien sûr la Troisième République de l'éducation nationale, mais aussi de la colonisation, la Troisième République des années 30, la Troisième République qui ne réussit pas à se maintenir, et donc c'est l'histoire nationale également de la Seconde Guerre mondiale, et puis de l'incapacité, après la Seconde Guerre mondiale, de tenir sur un certain nombre de principes qui avaient été énoncés dans cette Seconde Guerre mondiale, et d'être incapable donc de décoloniser immédiatement après. Et donc il s'agit de ressaisir, il me semble, cette histoire pour pouvoir comprendre là où on en est aujourd'hui. Ressaisir cette histoire, c'est d'abord ressaisir, en particulier pour les années 30, la Seconde Guerre mondiale et la suite, l'histoire d'une faillite nationale. Voilà. Et que donc l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qui est troublant, c'est que des nations qui ont collaboré, des nations qui ont failli, des nations qui n'ont pas été capables de tenir sur leurs promesses, que ça soit protéger les citoyens, maintenir un état de droit démocratique, ne pas collaborer avec l'ennemi comme signe de loyauté envers la souveraineté de la nation, eh bien, ces nations qui ont failli ont réussi à se restaurer, à être restaurées. Et donc, on restaure la nation, et on restaure la nation sur un mode qui nous livre ce que j'appellerais des nœuds. Et le nœud premier qui est important aujourd'hui à saisir, c'est qu'on utilise l'imaginaire de la résistance, qui était un imaginaire de minoritaire. On a évoqué les résistants roms tout à l'heure. On peut évoquer, bien sûr, des tas d'autres groupes. Tout le monde sait qu'il y a eu toute une série de groupes résistants qui étaient juifs, arméniens, espagnols, et qui étaient en même temps français, avec cette pluralité d'identités. Et c'est en s'appuyant sur l'imaginaire de la résistance qu'on a restauré, du côté de l'Europe de l'Ouest comme du côté de l'Europe de l'Est, des identités nationales patriotiques, comme si tous les lieux avaient été patriotes au sens de résistants. Et donc, il y a là un nœud très compliqué, parce que finalement, il va falloir dénouer résistance et nation pour pouvoir effectivement se ressaisir de ce que peut être cette restauration. Il se trouve que cette restauration, un peu partout, et en particulier en France, elle restaure un certain nombre d'énoncés, comme droit de l'homme, mais elle ne met pas droit de l'homme et du citoyen. Elle restaure un certain nombre de notions, mais en oubliant la Révolution française. Et ce n'était pas la première fois qu'on l'oubliait, parce que tout en se réclamant de la Révolution française, la Troisième République avait également oublié la Révolution française, et en fait s'était appuyée essentiellement sur la période thermidorienne, directoriale, qui avait renoncé aux droits de l'homme et du citoyen également, au profit simplement des devoirs du citoyen. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui me paraît important, ne serait-ce que pour faire écho aussi à ce que vient de dire Jacques Rancière sur ces intellectuels qui, au nom du républicanisme, au nom de la République, au nom de la laïcité, peuvent effectivement fabriquer cet outil intellectuel pour l'État de discriminer et de rejeter des gens finalement inassimilables. Qu'est-ce que ça veut dire de rejeter la Révolution française ou de l'oublier au moment d'une restauration nationale? Eh bien, ça veut dire qu'on oublie effectivement que la Révolution française se fonde et se fonde d'emblée en 1789. Je pense simplement à un texte de quelqu'un qui est encore moins radical que Italo Calvino, qui est Seyès, même s'il est radical en 89 relativement. Dans Qu'est-ce que le tiers-État, qu'on connaît bien pour l'affaire du tiers-État, il affirme qu'il va falloir renvoyer la noblesse qui a la folle prétention d'avoir du sang bleu dans ses forêts de Franconie, c'est-à-dire rejeter l'idée qu'elle est d'une race différente du reste de l'humanité. Et que si on renvoie la noblesse dans ses forêts de Franconie, alors il y aura la possibilité pour le reste de la population de ne plus s'imaginer être descendant des Gaulois, de ne plus s'imaginer être descendant de ceux qui ont été conquis. Et donc ce qui est rejeté dans le même mouvement, c'est à la fois une longue lutte des races dans les histoires européennes, et c'est l'imaginaire qu'il y a une hiérarchie entre conquis et conquérants dans les nations. Donc c'est un point extrêmement important qui fonde effectivement la manière dont on conçoit un peuple et une communauté, parce qu'il y a bien de la notion de communauté, j'y reviendrai tout à l'heure, dans la Révolution française, mais une communauté qui en aucun cas ne doit être ethnique, raciale, mais qui doit être avant tout une communauté politique. Et de ce point de vue-là, restaurer sans tenir compte de la Révolution française, sans tenir compte de ce point-là, eh bien, c'est laisser possible l'indécision entre communauté politique et communauté ethnique. Il s'agit, dans la période de la Révolution, non seulement de rejeter cette lutte des races, mais également de batailler pour inclure ce qu'on appelle à ce moment-là les gens libres de couleur dans la société, puis pour abolir l'esclavage, et inclure ainsi dans la nation l'universalité du genre humain qui prend part à la vie politique commune. Autrement dit, les citoyens français révolutionnés ne sont pas les seuls blancs riches en 1789-1794, même si c'est ce qu'aurait souhaité le lobby colonial contre-révolutionnaire dès 1789 et qui fait tout pour empêcher effectivement ces gens de devenir citoyens. Cette communauté n'est pas non plus une communauté qu'on dirait aujourd'hui culturelle, au sens où cette communauté est d'abord une communauté des affections politiques dans des rapports de secours réciproques et d'élaboration collective de la loi. Ça me paraît important, parce que l'idée qu'on puisse avoir comme objectif politique dans une assemblée comme la nôtre aujourd'hui, de transformer les lois, c'est un point qui me paraît quand même assez crucial. On parle constamment avec le syndicat de la magistrature, avec le JISTI, des lois qui sont aujourd'hui préparées ou qui sont à l'œuvre. Eh bien, effectivement, je crois que l'objectif, c'est de préparer d'autres lois, mais de faire en sorte que ces lois ne soient pas celles de politiciens professionnels, mais qu'il y ait la possibilité d'une élaboration collective de la loi et donc de réinstaurer, de réinventer, de réimaginer ce que pourraient être aujourd'hui des lieux qui permettraient l'existence pratique, concrète, l'utopie concrète d'un peuple loi qui choisit quelle loi effectivement il a, pas simplement en allant voter. Cette communauté qui est donc la communauté d'un peuple loi et non d'un peuple ethnique choisit, c'est un point extrêmement important, d'instaurer la liberté de culte, car la liberté de conscience conduit logiquement à la liberté culturelle. Cependant, cette communauté politique doit être une communauté souveraine, et c'est vrai qu'il y a une ligne de partage extrêmement importante dans la Révolution française, à savoir ceux qui acceptent la Révolution et qui reconnaissent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ceux qui la refusent. Et que ceux qu'on va nommer étrangers, dans toute la période révolutionnaire, ceux qu'on va nommer étrangers, ce ne sont pas des gens qui sont d'une autre origine, parce qu'il y a des patriotes qui sont de tous les pays de la Terre à ce moment-là. Ceux qu'on va nommer étrangers, c'est ceux qui trahissent ces principes des droits de l'homme et du citoyen. En premier lieu, le roi. Le roi, quand on fait son procès, quand Saint-Just fait son discours, eh bien, il affirme qu'il faut traiter le roi en étranger parce qu'il a trahi les principes de la cité, qu'il a trahi son peuple, et qu'en tant que tel, il s'est mis en dehors de la nation, et que c'est en tant que tel qu'il va falloir utiliser le droit international pour juger le roi et non pas un droit qui serait celui qui s'appliquerait aux citoyens. Et donc le mot étranger dans la période révolutionnaire renvoie à ceux qui refusent une certaine conception de ce peuple-loi qui s'appuie sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bien sûr, aujourd'hui, c'est difficile à entendre parce que le droit de l'hommisme, évidemment, est passé par là et qu'on a du mal à se dire mais on ne peut pas s'identifier simplement à ça. Il ne s'agit pas de s'identifier simplement à ça, mais de repérer quel nœud il y a dans ce refus de savoir, simplement savoir, qu'une autre conception de la nation a été fondée dans les lieux qu'on nous présente malgré tout encore un peu comme étant au fondement de notre vie politique commune. Les étrangers ont été nombreux pendant la Révolution française à participer à la Révolution française, à être très actifs, et la chose s'est enrayée à un moment donné, c'est-à-dire la capacité à inclure les étrangers s'est enrayée. C'est enrayé à diverses reprises, d'une manière simplement pratique, c'est-à-dire l'inclusion a cessé à un moment donné, ou d'une manière plus théorique, où on a considéré que non, il fallait inventer la notion de nationalité. C'est quelque chose qu'ils inventent assez tardivement, dans les années 1797, et à ce moment-là, on découple l'idée de citoyenneté et de nationalité, et on affirme que pour être un citoyen français, il faut avoir la nationalité française. C'est quelque chose qui est tardif et qui n'a rien de révolutionnaire. Qui n'a rien de révolutionnaire dans une période qu'on présente comme étant celle globalement de la Révolution. Et je voudrais finir par ça. J'ai voulu montrer qu'une autre conception était possible dans cette période révolutionnaire. Mais en même temps, tout ne se fait pas, même dans une révolution aussi extraordinaire, aussi radicale que celle de 89 à 94. Parce qu'il y a un certain nombre d'héritages de très longue durée qui sont enclavés, enquistés dans les sociétés. Et que la Révolution française elle-même hérite en particulier d'une certaine conception communautaire des relations sociales, où celui qui est déclaré sans feu et sans aveu, et donc qui n'appartient pas à une communauté précise, ou qui simplement, quand il arrive quelque part, est amené à changer un petit peu les règles des rapports sociaux qui sont dans un village, une ville, un quartier. Eh bien, cet individu est considéré comme un individu à exclure. Et on a des énoncés aussi extrêmement violents pour dire qu'on ne peut pas partager tous les bienfaits, en particulier en termes de richesse, avec tous ces vagabonds. Et que l'idée du vagabond et de l'homme sans feu et sans aveu, eh bien, c'est quelque chose que la Révolution n'a pas réussi à déplacer. Et c'est un autre nœud qu'elle nous a livré. Et je crois qu'aujourd'hui, pour pouvoir s'attaquer vraiment fermement et relancer l'idée de l'universel, eh bien, il va falloir s'attaquer à quelque chose qui est enquisté dans une très longue durée, qui fait qu'il y a un appel à la communauté, qu'elle soit politique ou qu'elle soit sociale, qui est assez immémoriale, et qui fait qu'on rejette effectivement les semi-citoyens, ceux que Jean Borail appelait des quasi-autres, ceux, comme le disait Éric Fassin tout à l'heure, sont sur le seuil, et qu'il s'agit bien de réfléchir à quel seuil on souhaite avoir dans nos sociétés pour pouvoir effectivement être dans une logique de secours réciproque et une logique de l'universel. Merci beaucoup.
davle startajči. Numaj davle šoljamo. Avoj devla sokerde. Čiko mištu, čiko čide mištu. Čiko mištu, čike čide mištu. Avreske romjaka i lezi. Štare čave, čorate. Versa su temera va 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 ayo starto chimulen prin versa